Nous allons lire quelques versets dans les Hébreux, au chapitre 12, Hébreux 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset, en principe, 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous voyez, Jésus, il a combattu jusqu'au sang. La parole, les évangiles, nous parle du sang, de ses larmes, de sa sueur, qui est devenue comme des grumeaux de sang, tellement il a résisté. Il a dû résister au péché parce qu'il a porté le péché, il a dû le porter pour nous. Il n'a jamais péché, mais il a dû le porter. Et voyez, il a dû résister jusqu'au sang pour nous, pour chacun de nous. Voilà l'amour extrême que Jésus nous manifeste et qu'il a manifesté à la croix. Alors que ce verset puisse, je vais juste relire les deux premiers versets pour que nous puissions vraiment nous imprégner de ce que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Si donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes environnés de frères et sœurs, nous ne sommes pas tout seuls. Et vous, le christianisme n'est pas, voilà, je suis mon culte tout seul à la maison, devant une télé, devant un iPad, devant un iPhone, etc. Ça peut se faire occasionnellement, hein, quand on est en vacances et qu'on est complètement isolé. Mais ça ne doit pas devenir l'habitude. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Il n'a pas prévu les iPhones ou les iPads pour ça. Hein. Ça, c'est un outil, comme tout outil, comme l'argent. Il faut savoir l'utiliser. Mais ce qu'il a prévu, c'est une communauté, c'est des liens les uns avec les autres, des liens vivants, des liens où on se rencontre entre frères et sœurs. Ça s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Et nous sommes environnés de témoins aujourd'hui. Hein, vous avez à côté de vous. Hein, vous tournez les uns vers les autres et vous remerciez le Seigneur d'avoir des témoins à côté de vous, hein, qui ont la même foi que vous. Mais ces témoins aussi ont vécu dans le passé. Et je propose que pendant ces vacances, on regarde un petit peu aussi au passé, parce que ces témoins nous apprennent aussi comment vivre dans le présent. Et tout cela dans un but, c'est de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposé. Alors l'épreuve, c'est pas forcément quelque chose qui, voilà, nous une difficulté pour nous faire du mal. Hein. L'épreuve, il y en a qui suivent des épreuves du baccalauréat, hein, mais c'est pour avoir un diplôme, pour pouvoir travailler. Voyez-vous. Donc l'épreuve, c'est pas dans le sens de nous humilier. Mais l'épreuve, c'est dans le sens de nous fortifier pour grandir dans la foi. Vous avez vu qu'il est question de la foi, hein, et que Jésus est celui qui est l'auteur, mais aussi le finisseur, celui qui finit la foi. Et entre les deux, il y a une progression. Hein, et c'est cette progression, donc cette tendance vers la perfection, entre guillemets, la perfection n'existe que dans le ciel, mais en attendant, il y a une progression. Et la parole de Dieu, ce matin, nous invite à progresser en faisant quoi? Comment est-ce qu'on progresse? En fixant nos yeux où? Sur nous-mêmes? Voilà, si nous fixons les yeux sur nous-mêmes, nous sommes comme les païens de ce monde qui veulent progresser avec leurs propres efforts. Okay? Mais nous fixons nos yeux sur. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous ne subissons pas cette épreuve, nous la passons, mais en fixant nos yeux sur Jésus. Vous voyez, c'est déjà l'attitude qui nous est proposée, c'est de fixer nos yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le finisseur, celui qui l'amène à la perfection. Le finisseur, c'est dans un autre verset que ce terme est utilisé. Et il nous est rappelé que Jésus, qui aussi a dû passer par cette épreuve de la croix, et vous voyez que l'épreuve de la croix, ce n'était pas pour humilier Jésus, c'était parce que la croix a été prévue, c'est le moyen de nous racheter. La croix était dans le plan de Dieu, le seul plan qui puisse nous racheter, c'est la croix. C'est pour ça qu'il est dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Parce que la croix, il n'y a que Jésus qui a porté notre péché et qui est mort. Dans toutes les religions, il y a des légendes de mort, etc. Mais c'est seul Jésus qui a porté nos péchés, qui a porté le poids de notre culpabilité, qui a fait cette substitution de nos vies pour nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est la croix. Et là, il nous est dit qu'au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Vous voyez, ça, c'est Jésus qui a renoncé à la joie d'être fils de Dieu, de pouvoir bénéficier de tout le royaume que Dieu lui donne. Il a accepté le plan de Dieu, le plan de rédemption, le plan de la croix. Il a accepté. C'est cette épreuve que lui, il a passée, et bien nous permet aujourd'hui, nous, d'être sauvés. Et il nous propose aussi de supporter nos épreuves, qui ne sont pas des épreuves de rédemption, mais qui sont simplement des épreuves pour faire grandir notre foi. Voilà ce qui nous est proposé. Et il est dit que Jésus a été méprisé, hein, mais après avoir supporté la croix, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et nous aussi, il nous est proposé la même chose, d'être assis avec le Seigneur, assis dans les lieux célestes. Amen. Et voyez, déjà aujourd'hui, en acceptant Jésus, nous sommes déjà en partie, spirituellement, assis avec lui. C'est-à-dire que nous avons la victoire sur les ennemis. Nous avons, au travers de la croix, nous avons la victoire de Jésus. Et il nous faut saisir cette victoire par la foi dans toutes nos situations. Situations de péché, situation de libération des démons, situation de libération de la maladie, situation, toutes les situations d'oppression, nous avons la victoire. Ça ne veut pas dire que c'est instantané, parfois c'est instantané, parfois l'épreuve dure un petit peu plus, mais le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Et s'il nous fait patienter, c'est qu'il veut nous faire passer une épreuve qui nous permette d'avoir une foi plus grande, une foi qui nous permette aussi d'avoir une mission plus grande, d'avoir une possibilité de le servir dans d'autres domaines de responsabilité. Oui. Tout ça, le Seigneur le sait. Nous sommes dans sa main. Il a dit « Nul ne vous ravira de ma main ». Donc ce qui est important, c'est d'être dans le Seigneur, dans la main du Seigneur. Et alors là, nous serons bien. Amen. Amen. Voilà. Alors, ceci, c'est pour introduire le thème de ces vacances. J'ai prié pour savoir ce que je pouvais apporter comme thème global. Et le Seigneur m'a montré précisément que je devais aborder un certain nombre de héros de la foi, un certain nombre de témoins qui ont vécu avant nous et pour plusieurs raisons. J'en ai noté quelques-unes des raisons, pardon. D'une part parce que, alors c'est surtout les réveils, hein, c'est des personnages qui ont été dans des réveils spirituels. Il y en a qui connaissent des personnes qui ont été dans des réveils, ou l'objet de réveil, ou l'utilisation de réveil. Alors toi, tu as fait le col biblique, je te laisserai passer à la fin, parce que tu connais trop bien les choses, non? Vous avez dû faire hein, les réveils. Quels sont ceux qui aiment les histoires de réveil? Alors, quels sont vos préférés? Voilà, je vous laisse citer quelques personnages. Wesley, quels sont d'autres personnages de réveil que vous aimez bien, en vrai, ça va peut-être vous donner, j'espère en tout cas, vous donner bien le désir d'en lire, si vous... Pardon ? Luther. Waouh. Pas beaucoup. Qu'est-ce qui aime relevez vos mains pour ceux qui ont lu des livres de réveil. Tu te rappelles plus, oui, tu te rappelles plus les personnes qui sont citées dans ces livres-là. Pardon ? Oui, Moody. Ah. Les Anglais sont à l'honneur, là. Moody. Encore d'autres ? Bon, moi, je crois que ça va pas être inutile. Alors, je te laisse citer d'autres. Pasteur Colin, oui. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Alors, je vais pas aborder tous les réveils. Hein. Je n'aurai, voilà, ce que c'est la vie de l'Église, hein, les réveils. Mais j'en ai abordé au moins 7 grands réveils. Pardon ? Christmas ? Ah. Ah, d'accord. C'est un récent, alors ? Non, j'ai jamais entendu parler de lui. Ok ? Spurgeon. Ok. Very good. Ok, bah, ça va pas être inutile. Par contre, je vais découvrir avec vous quelque chose que Luc Maroni a fait. Vous connaissez Luc Maroni, hein? C'est pas notre vis-à-vis, mais c'est pas loin. Mais j'ai besoin au moins de 3 hommes. Tiens, je vais désigner notre diacre Ruth et Jean-Gilles. Je savais que c'était commencé par Jean. Voilà. Si vous pouvez me sortir ça. Alors, c'est très grand, hein. Pour ça, il faut être à plusieurs. Alors, on va vous le découvrir. Hein, on va faire une découverte. Ben, je ne sais pas. Comme je le découvre comme vous, je ne voudrais pas que ça se déchire. Tu le tiens au milieu. Ouais. Alors, derrière le truc, ça ne va pas le faire. Oui. Devant, ce sera mieux. Voilà. Ça, c'est l'œuvre, le travail. Ben, ouvre-le complètement. Hein. Voilà. Ça, c'est le, mais maintenant, ce n'est pas très bien tiré. Voilà. Ah, moi, je crois qu'à deux, ça va, je ne savais pas trop. Ah oui, c'est une toile. Donc ça va, vous pouvez tirer, alors. Tirez fort. Voilà. Voilà. Mais vertical, si vous voulez. Voilà. Lève-le un tout petit peu là-bas, voilà. Non, non. Voilà, comme ça. Qu'on puisse bien lire, voilà, c'est ça. Voilà, moi, je ne savais pas très bien en quoi ça consistait, parce qu'il m'en a parlé, et il m'a dit, tiens... je te donne ça. Donc, c'est Luc Maroni qui a fait ça. C'est l'origine des courants du protestantisme à partir des Vaudois. Il y en a qui connaissent les Vaudois, c'est en 1170. Pierre Valdo. Oui, c'est un Français. Hein. Et comme quoi les Anglais, ils connaissent bien leurs revivalistes et nous, on connaît pas les nôtres. Hein. Et pourtant, en France, il y a eu vraiment des hommes, des femmes de Dieu qui ont réveillé la population. Il y en a qui veulent réveiller leur population. On est appelé à ça. Hein. Eh bien, on avait tire encore un petit peu là. Voilà. Donc là, c'est en 1400. Là, c'est 1600, 1700, 1900. Voilà. Donc je vais en aborder certains. Vous voyez, là, il y a Billy Graham, hein, qui est là. Je pense que vous le connaissez quand même. Il y a les Amish aussi, les Quakers. Hein, vous avez déjà mangé de l'avoine là, du blé là, du flocon d'avoine, voilà. Ben, vous avez les Quakers qui sont là. Là, il y a bien sûr Luther, Calvin, etc. Les puritains. Alors voilà, vous pouvez le consulter. On va l'accrocher. Alors aujourd'hui, on n'a peut-être pas les moyens de le faire, mais je compte sur vous. Allez voir là-bas pour voir si ça tient entre les deux trucs. À moins que ça tienne là, je sais pas. Voilà, donc on va l'accrocher parce que c'est pas. Mais attendez, on va déjà voir la distance. Ouais. Quelque chose comme ça, peut-être, voilà. Non, mais bon, aujourd'hui, peut-être, ça va se casser la figure. Mais voilà, vous regardez pour qu'on puisse l'avoir éventuellement là-bas. Mais bon, il faut pouvoir accéder facilement. le plus facile, c'est là. Voilà, donc vous pourrez le consulter. Et l'objectif, là, de cette vacance, c'est de vous donner le goût de vous intéresser au réveil. Au réveil spirituel. Amen. Ça vous passionne? Non, ça n'a pas l'air. Hein. On fera avec. Le réveil, hein, c'est quelque chose quand on s'endort. Est-ce que vous avez conscience que vous endormez? Oui? Donc c'est déjà bien. Quand on n'est pas conscient de s'endormir, on a l'impression que... Non, on s'endort facilement. On s'endort dans notre vie chrétienne, on s'endort sur nos lauriers, et souvent, quand on a des victoires, on s'endort plus facilement. Parce qu'on a l'impression qu'on est arrivé. Et en fait, on n'est jamais arrivé. Le Seigneur, vous voyez, tous ces témoins qui sont là depuis 1400, enfin quelques-uns de ceux-là, eh bien, ils ont lutté jusqu'au bout pour que nous, nous puissions bénéficier du fruit de leur travail. L'autre chose qui est intéressante dans ce que nous allons voir ensemble, c'est que dans les réveils, il y a des choses qui reviennent, des constantes, des choses qu'on voit dans tous les réveils qui se succèdent. Et c'est important de voir quelles sont ces constantes, de manière à ce que nous puissions aussi en tenir compte. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Ça nous permet de connaître aussi notre histoire évangélique. Là, je ne vais pas faire trop d'interactions ce matin parce que c'est les vacances, donc c'est normal que vous ne réagissiez pas trop. Mais si je vous disais d'où est-ce que sort le mouvement évangélique, ça m'étonnerait que vous le sachiez. Alors c'est dommage, parce qu'on se dit évangélique, protestant évangélique. Vous voyez, le protestant, on le sait, hein, c'est Luther, Calvin, ça c'est clair. Mais le mouvement évangélique, il part d'où? C'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir, de connaître nos racines. Il y a des gens, surtout aux États-Unis, hein, qui donneraient je sais pas combien d'argent pour connaître leurs origines. Donc ils viennent en Europe, ils viennent en France, en Angleterre, partout, pour savoir d'où les racines. Ça, sur le plan naturel, il y a des gens très très curieux. Mais sur le plan spirituel, nous, on n'est pas curieux. C'est dommage. Parce qu'en fait, c'est important, parce que notre foi, nos doctrines, ce que nous croyons de la vérité, ça vient de ce que Dieu a fait dans les réveils. Donc ça aussi, c'est important, nous allons l'apprendre. C'est important aussi que nous apprenions à persévérer. Et quand on voit les mouvements de réveil, on voit qu'il y a eu besoin de persévérance. Ça nous donne aussi la foi. La foi pour voir Dieu agir. Et très souvent, on se dit, ah tiens, pourquoi là il y a des gens qui se convertissent, hein, on voudrait que voilà nos églises soient remplies de gens qui sont convertis, hein, et pourquoi il y a eu des choses miraculeuses, pourquoi il n'y en a plus, etc. Ben, toutes ces questions, eh bien, c'est expliqué dans les réveils, c'est vécu dans les réveils, et quand on lit les réveils, on comprend des choses, et on comprend aussi que Dieu est souverain, que c'est Dieu qui décide des réveils. Et que c'est pas nous qui pouvons produire un réveil. C'est l'action du Saint-Esprit. Et là aussi, ça nous donne de l'humilité. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir, en gros, un peu, cette vague, des vagues de réveil. Alors, pourquoi les vagues? Je trouve que l'image de la vague est intéressante pour un réveil. Et c'est toujours un peu la nature qui nous instruit, hein, des choses, du Seigneur. De toute façon, la nature a été créée par Dieu. Et donc, la vague, c'est quelque chose qui illustre bien le réveil. Et si je dessine la mer, il y en a qui vont à la mer cet été? Voilà. Donc, voyez la vague, enfin, surtout, la Méditerranée, c'est pas trop un exemple, mais si vous allez, nous, on va aller en Bretagne, et là, il y a des belles vagues. Hein. Quand il y a une vague, la vague, elle se forme comme ça. Hein, on fait du surf là-dessus. Hein, et qu'est-ce qui se passe après la vague? Est-ce qu'elle reste comme ça, figée? Ouais, quand vous faites une photo, ça va. Mais dans la pratique, elle reste jamais comme ça. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hein, elle s'écrase. Voilà. Et ensuite, après, hop, Voilà. Ok, puis ça devient nouveau plat. Et les surfeurs, ils attendent, hein, pour avoir de nouveau une nouvelle vague pour surfer dessus, parce qu'il y a de l'énergie, hein, sur une vague. Donc on peut surfer là-dessus. Cette image-là est très intéressante du réveil. Tout simplement parce que une vague, vous ne pouvez pas la produire. Elle se produit. Bien sûr, scientifiquement, on peut expliquer comment elle se produit. Mais nous qui regardons à partir de la berge, on voit simplement se produire, c'est tout. Eh bien, cette image, c'est celle du réveil. Dieu décide de... Donc c'est Dieu, hein, qui décide de démarrer une vague de réveil, qui décide de déclencher une vague de réveil. Alors là, cet été, je ne vais pas faire travailler beaucoup pour essayer de chercher pourquoi. Hein, mais bon, ça c'est une autre démarche. On va juste regarder certaines vagues, hein, étudier certaines vagues par les faits, ce qui s'est passé, hein, mais pas les causes. Mais il y a des causes, mais les causes, on ne va pas les regarder. Donc là, Dieu démarre une vague, et cette vague, elle est un sommet, et ensuite après, elle s'écrase. Et ça, c'est parce que nous sommes pécheurs. Et que nous ne pouvons pas tenir cette vague. Vous voyez, nous ne pouvons pas tenir cette vague. Et cette vague dure un certain temps, et elle s'écrase. Elle est plus ou moins haute, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans... Là, c'est pas moi qui ai choisi les différents réveils dont je vais vous parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine constante. Alors c'est étonnant, hein, c'est pas scientifique, hein, c'est juste un constat. Hein. Voilà. Donc on va étudier cette vague. Alors mon truc est pas assez grand pour mettre les sept. Voilà, cette vague. Parce que souvent, la fin de la vague, ici les gouttelettes, démarrent une nouvelle vague. Voilà. Un nouveau réveil. Donc ça c'est un réveil, un certain temps, et là c'est un nouveau réveil. Très souvent la fin de la vague déclenche un nouveau réveil. Et ça c'est la grâce de Dieu, parce que ça permet que l'Église ne meure pas, sinon l'Église mourrait. Vous voyez ? Ici la vague elle meurt, hein, et l'énergie qui est là, hein, l'énergie que Dieu a mis dans la vague, eh bien pour réveiller le peuple de Dieu, eh bien, souvent, il revient à plat. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire. Si vous regardez l'histoire, vous remontez déjà dans la Bible, hein, rien que dans les juges, période des juges. Vous voyez que le peuple d'Israël, il venait au Seigneur, et hop, dès que ça allait mieux, oh ben, il s'endormait, et l'ennemi revenait, et était obligé de refaire une nouvelle vague de réveil. Et on a ça tout le temps, déjà dans les juges, mais ensuite après dans tout le peuple d'Israël. Et nous, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit que ça change fondamentalement les choses. Ça devrait, mais on reste pécheurs. Et ce qui fait que s'il n'y avait pas d'autres vagues, eh bien, la mer serait plate et l'Église n'existerait plus. Il n'y aurait plus d'Église aujourd'hui de Jésus-Christ si Dieu ne produisait pas des réveils. Pour ça, c'est important de comprendre que nous devons chercher un réveil. Nous devons prier pour le réveil. Nous devons nous attendre à un réveil. Nous ne pouvons pas le déclencher, mais nous pouvons prier pour cela. Avoir un cœur. Parce que dans un réveil, beaucoup d'âmes sont sauvées. Parce que nous ne pouvons pas sauver les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. On est d'accord. Donc nous ne pouvons rien faire concernant le cœur des gens. Mais nous pouvons, eh bien, accompagner cette vague. Et c'est ce qui se passe. Une vague qui s'arrête, une nouvelle qui commence. Et les sept vagues dont je vais vous parler, qui commencent ici. Alors attendez, je suis perdu là dans ce truc-là. 1400, hein, c'est ça? 1400. Ouais, moi je commence en 1600, c'est où 1600? Ah oui, c'est par là. Voilà. Commence à me repérer. Louis XIV, c'était où? C'était quand? C'était avant? Non, c'est 1200. Attendez. Comme je découvre avec vous la planche, là, j'essaie de me repérer avec vous. Hein. Moi, je remonte en 1688. C'est où 1688? Ah bah oui, c'est par là. Voilà. Je commence à mieux me repérer. Voilà. Donc, à partir de là. Donc, vous voyez, il y a des vagues de réveillement. Hein. Mais moi, je vais juste commencer... par là, voilà. Donc cette planche-là, cette planche-là est plus large que ce que je vais vous présenter à partir de là. À partir de là, jusqu'à maintenant, il y a à peu près 7 vagues de réveil. Ces vagues de réveil, ce qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, il y a à peu près une constante ici qui sont 60 ans. Alors une fois de plus, hein, c'est pas scientifique ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est pas reproductible. Hein. La science est reproduite. Hein. Le principe de la science, c'est que quand on a une loi, on la reproduit parfaitement. Ça, c'est factuel. Juste, je me suis aperçu que la plupart. Alors 60 ans, c'est intéressant parce que c'est à peu près 2 générations. Hein. Une génération, c'est 25 ans, 25, 28 ans. Il y a une nouvelle génération puisqu'on peut avoir des enfants. Bien sûr, très tôt, mais en général 20 ans, 25 ans. Donc, 2 générations. Et Dieu est obligé de renvoyer une vague au bout de 50, 60 ans pour garder le peuple éveillé. Voilà. C'est un petit peu ça qui m'a interpellé en regardant ces vagues. Alors, la première vague, j'ai commencé aujourd'hui par cette première vague qui commence en 1688. La deuxième vague, je vais noter les dates, la deuxième vague, elle est en 1727, la troisième vague en 1792, 1830, après 1857, 1880, 1900, 1960. Voilà. Alors il y a entre là et là, vous, si vous êtes mathématicien, vous allez voir qu'il y a que entre 1792 et 1780, 1757, pardon, je suis un peu perdu. 1757, voilà, il y a 20 ans. Là, il y a 20 ans aussi. Donc il y a 40 ans. Et c'est intéressant parce qu'il y a une seule personne qui est dans ces deux vagues, parce que c'est pas... Je la cite, cette vague-là, normalement je devrais passer de là à là, mais parce que Moody, par exemple, il a couvert presque 3 vagues de réveil. Mais il y en a d'autres, à d'autres endroits, aux États-Unis, en Angleterre, qui ont vécu. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est pas scientifique, mais globalement, sinon, tous les autres, c'est à peu près 60 ans où ils se reforment un réveil significatif. Un réveil qui bouscule, un réveil qui change, un réveil qui étonne, un réveil qui vraiment change les vies. Et dans cette période-là, il y en a eu un petit peu plus. Voilà. Alors, 1688. Là, je vais vous faire juste réfléchir 30 secondes. 1685, c'est quelle date ça? 1685. Donc c'est dans ces eaux-là. Voilà. Dans ces eaux-là. Là. Qu'est-ce qui s'est passé ici de fondamental en France? Non, en France. C'est une date historique qui nous a marqués, nous, protestants. Révocation de l'édit de Nantes. Vous connaissez l'édit de Nantes? Alors, là, c'est un petit peu d'histoire pour rappeler la réforme. Hein. Là, il y a eu la réforme. Et là, il y a eu les guerres de religion, hein, presque pendant tout ce siècle-là. Et Henri IV... qui d'ailleurs était à Mantes pendant plusieurs années, hein, c'est de Mantes qu'il est allé sur Paris, Mantes-la-Jolie, il a établi un édit qui s'appelle l'édit de Nantes en 1598 pour donner quoi? Là? C'est une Anglaise qui nous fait l'histoire, c'est bien ça. C'est la liberté de culte aux protestants. Parce que les protestants n'avaient pas droit de liberté au culte, parce que les catholiques voulaient rester la seule église qui chrétienne, puisqu'ils prétendaient que, enfin, ils prétendent toujours qu'ils sont directement de la succession apostolique. Pierre a été établi par Jésus, Pierre, etc. Voilà. Donc c'est la seule église au monde qui peut revendiquer ça. Et donc là, Henri IV a instauré un édit de liberté à Nantes qui permettait aux protestants de vivre, d'avoir des cultes en France libre. Et ça a été révoqué en 1600, 85. Révocation de l'édit de Nantes. Ok ? Ça veut dire qu'à partir de là, il y a eu de nouveau persécution. Persécution des protestants dans le royaume de France. Donc plus de liberté. Cette liberté, on l'a retrouvée quand ? Juste pour mémoire. Il y a une couche de rattrapage à faire là. Pardon ? Les jeunes, vous savez de ça par cœur là. Vous êtes de l'école là. Non ? À l'école, hein, on n'apprend pas tout ça. C'est la Révolution française. Une année avant. Il n'y a pas que des choses mauvaises, hein, Révolution française, mais bon, on ne parle que des choses mauvaises, mais ça a permis quand même d'arrêter la primauté de l'Église catholique en matière d'imposition religieuse. Et donc, ça n'a été donc de 1685 à 1789. Il y a eu donc la persécution jusque-là, 1700. Je crois que c'est 88 qui a eu une petite ouverture, et 1789, prise de la Bastille, on a eu de nouveau la liberté, avec beaucoup de terreur. Hein. Les révolutionnaires n'ont pas été faciles avec les catholiques non plus. Et ils ont égorgé, ils ont fait tout un tas de choses violentes. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc j'ai situé un petit peu, vous voyez, parce que ça c'est de l'histoire, hein. c'est pas des légendes, c'est pas des choses qu'on raconte pour endormir les enfants le soir, c'est des choses, des témoins qui étaient avant nous et qui nous ont légué un certain nombre de choses. Et on va voir qu'ils nous ont légué beaucoup beaucoup de choses, si on veut bien apprendre d'eux. 1688, voyez-vous, c'est 3 ans après. Là aussi, il y a déjà un enseignement qui nous vient du réveil. Le réveil, en 1688, a démarré 3 ans après le démarrage de la persécution violente. Les protestants qui ont été envoyés aux galères, qui ont été torturés, qui ont été mis en pièces, etc. 3 ans après, le Seigneur agit. Voyez-vous comme quoi, dans les persécutions, le Seigneur, il se manifeste. Pour manifester sa grâce, pour manifester qu'il est présent. Quand les hommes ne peuvent plus rien faire, Dieu il agit. Donc là, c'est... Alors, je vous donne quand même les grands noms qui sont derrière ça. Donc ici, 1688, c'est le réveil des Cévennes et du Vivarais. Alors là, je me suis trompé. 1727, voilà. J'ai mangé la moitié du truc. 1727, c'est Wesley, hein, en Angleterre. Et on parlera ça dès qu'on aura le temps. Ensuite, c'est Finet, 1792. Ensuite, c'est Spurgeon, 1830. C'est Jonathan Edwards, pardon. Ici, là, c'est 1830 Finet. Ici, c'est Spurgeon. Ici, c'est Moody. Ici, c'est le réveil de Pentecôte, Azusa Street, 1903, 1904. Et 1960, c'est le réveil charismatique. Et après, je ne parle pas du réveil qui ont lieu actuellement dans le monde entier. Hein, parce qu'on sent qu'après le retour d'Israël, hein, qui est en 1948, qui est aussi une date où Dieu a fait des choses, il y a un réveil mondial qui se met en place avant le retour du Seigneur. On va juste regarder ce matin le réveil des Cévennes. Là, qui savent où sont les Cévennes ? Au-dessus de Montpellier, dans la montagne, vers l'intérieur de la France, vers le Massif central, il y a le début de collines assez importantes. On y est allé. Il n'y a pas longtemps, Michel et moi, on a découvert donc ce massif montagneux dans lequel les Cévenols ont résisté. Pardon ? Oui, Gagnères, oui, c'est un peu le début du Cévennes. Et donc ils ont résisté à Louis XIV et à ses troupes, les dragons, qui sont venus les déloger et les martyriser. Alors, je vais vous lire, parce que je ne connais pas ça par cœur, hein. Juste les vagues. Donc, avant de parler des Cévennes, je reparle des vagues. Le plus grand besoin du monde aujourd'hui est celui d'une manifestation de Dieu, dans la puissance d'un réveil. Le réveil est un moment où Dieu se révèle dans une sainteté terrifiante. Quand les gens ont été touchés, ils s'accrochaient aux poteaux. Il y avait plus de poteaux que ça à l'époque dans les salles. Ils s'accrochaient parce qu'ils se sentaient partir en enfer. Et ils criaient, ils hurlaient de peur et ils criaient à Dieu pour se repentir. Donc la sainteté de Dieu se manifeste de manière puissante et irrésistible. Il s'agit d'un moment où Dieu visite le monde des hommes en leur communiquant une vision fraîche de sa gloire et de sa grâce, où en même temps il leur révèle leurs péchés, leurs faiblesses et leurs besoins désespérés de la grâce et de la miséricorde de Dieu. En temps de réveil, le peuple de Dieu est restauré. Voyez-vous, donc on parle de restauration, de son état rétrograde. Parce que, comme vous l'avez vu là, on rétrograde dans notre foi. Et même quand quelqu'un se convertit, on voit qu'à un moment donné, sa foi baisse, hein, individuellement et collectivement. Et il restaure de son indifférence et de son inactivité. Le peuple de Dieu devient préoccupé des choses de Dieu. Sinon, en ce moment, vous ne voyez pas que les Français soient préoccupés des choses de Dieu, même les chrétiens. On a du mal à faire des réunions, être sûr que les chrétiens viennent, parce qu'il y a tellement de choses, il y a les matchs de foot, il y a tout un tas de choses, il y a le coureur cycliste, il y a tellement de choses à regarder que choses de Dieu, ça passe après. C'est normal, c'est une période de réveil. Il devient intensément, dans le réveil, hein, quand l'énergie de Dieu amène un réveil, eh bien là, on voit que les gens prient avec ferveur. Ils se rendent à la maison de Dieu plus fréquemment. Ils recherchent la communion avec les frères et sœurs pour adorer. Ils grandissent une faim pour la parole qui est prêchée et qui illumine et pénètre les cœurs de ceux qui l'écoutent, apportant la conviction du péché et demandant une réponse de leur part. Les croyants grandissent dans la passion des âmes, parce qu'ils veulent que d'autres puissent accéder à cet amour, cette grâce qu'ils ont. Sinon, en période de plat, il n'y a pas cette passion des âmes. Par conséquent, en temps de réveil, la prédication de l'Évangile reprend le dessus et des multitudes sont converties. Quelquefois, de puissantes onctions de l'esprit produisent des manifestations physiques, telles que des profondes convictions, des larmes, des cris, des protestations, des mouvements dans tout le corps, des tremblements et des violentes secousses ou des rires. Les résultats d'un véritable réveil sont spectaculaires. Les caractéristiques normales de l'impiété, donc du péché, disparaissent. Par exemple, quand il y a eu le réveil, alors je ne sais plus, vous voyez, c'est un tout petit réveil, hein, je ne sais plus quand est-ce qu'il a eu lieu, en 1912, je crois, Atlanta, c'est la ville où il y avait Martin Luther King, c'est John Wimber là qui était à la fin là-bas, qui nous l'a raconté, il a vu un vieux monsieur là, qui était sur l'estrade et qui a connu ce réveil-là, il a dit quand les gens rentraient dans Atlanta, ils tombaient de leur cheval, par la puissance de Dieu. Dans le périmètre, un peu comme dans, vous prenez Paris, vous avez la couronne parisienne, enfin le feu circulaire, là, périphérique, voilà. Quand ils arrivaient par là, parce qu'ils venaient, hein, ils tombaient du cheval et ils étaient terrassés par la puissance de Dieu. Ils n'avaient que deux solutions, ou de rentrer dans la ville et de se convertir, ou de repartir. Il y en a qui repartaient, d'autres qui rentraient, ils étaient convertis. Il n'y avait plus aucun bar d'ouvert, il n'y avait rien d'ouvert, et tous les jeux avaient disparu, tous les gens étaient dans l'église et ils louaient, ils adoraient Dieu. C'était un tout petit réveil d'Atlanta, d'une ville, vous voyez. Mais là, ces réveils-là, c'est des réveils sur toute une région, sur tout un pays que je vais parler. Les réveils surviennent généralement à un temps de déclin spirituel et de déclin moral prolongé. Par définition, un réveil requiert un état de mort, de négligence ou de perte. Cela s'est toujours avéré dans l'histoire. L'Église devient apathique vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de son maître, vis-à-vis de la moralité et vis-à-vis de la mission qu'il a à accomplir, prêcher l'Évangile à toutes les nations. Elle perd aussi son zèle et devient inefficace. Son adoration devient ennuyeuse, routinière, et le nombre de membres décline. Il a besoin d'être réveillé de temps en temps pour sa propre survie. L'Église a besoin d'être ravivée pour accomplir la mission que Jésus a donnée. Jésus a donné cette mission à ses disciples en disant « Allez prêcher l'Évangile dans toutes les nations ». D'abord en Jérusalem, ensuite en Samarie et dans le monde entier. Une église morte ne sera jamais capable d'obéir au commandement de Dieu et de prêcher l'évangile du salut. Un réveil est ce dont l'église et le monde ont besoin. Le monde a besoin d'une église réveillée, sinon il ne rencontrera pas le Seigneur. Et le réveil est justement ce que Dieu désire donner. Dieu veut donner le réveil. Ça, c'est son désir. Mais nous, c'est à nous de l'accueillir et de nous préparer à le vivre. En effet, il est juste de dire que les périodes de réveil ont toujours été le principal moyen que Dieu a employé pour faire avancer sa cause et la cause de l'Église dans le monde. Le but donc de cette étude que je vais faire avec vous pendant cet été est de parler de ces réveils en essayant de faire lever des clés pour comprendre l'histoire chrétienne. Il s'agit d'une étude historique et pas une étude des causes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a ces sept vagues depuis le XVIe siècle. Alors, je vais parler de la première vague. Donc je reviens à 1688, 3 ans après la révocation de l'édit de Nantes. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que Dieu a fait, et voilà ce qui s'est passé. Deux mouvements différents que l'on peut facilement localiser sont apparus dans le sud de la France. D'un côté, les prédicants dans les Cévennes. Donc si vous avez la France qui est là. Donc dans les Cévennes. Donc dans cette partie de la France, dans les Cévennes, et dans le Bas-Languedoc, et de l'autre côté, les prophètes dans les régions du Dauphiné et du Vivarais. Donc vous voyez à Grenoble, tout autour, jusqu'à la frontière suisse. Là, c'est le Dauphiné et le Vivarais. C'est là que ça s'est produit, que se sont produits ces réveils en 1688. Les uns comme les autres étaient souvent des gens très très simples, des petites gens, comme on dit, qui n'avaient pas d'éducation, sans grande connaissance théologique, qui ne connaissaient pas la Bible ou vraiment très peu. Et ils ont un courage extraordinaire. Ils se sont levés malgré le prix à payer pour les activités, parce que c'est des endroits durs, surtout en montagne, dans le Vivarais. Ils étaient des condamnés à mort en sursis. Ils voulaient relever la foi huguenote et convoquèrent des assemblées dans les bois, dans les cavernes, dans les lieux retirés. Et l'église du désert est née. L'église du désert, ce n'est pas le désert au Sahara ou en Afrique. C'est même pas... Je pensais que c'était désertique. En fait, c'est... Voilà. Mais c'était en dehors des villes, parce qu'ils étaient persécutés. Donc ils se retiraient, vous voyez, ils se trouvaient en plein air, ou dans les grottes, ou les caves, etc. Et ça les a parbutés. Vous voyez, ils n'avaient pas d'autorisation de se réunir. Ils se sont réunis quand même. C'est là qu'on voit la foi qu'il y a derrière. Certains prédicants, donc prédicants, prédicateurs, mais ils s'appellent prédicants, lisaient ou récitaient par cœur des sermons. Il leur arrivait parfois de les modifier pour les adapter à ce qu'ils vivaient. Et nourris de méditations bibliques, c'est leur cœur qui parlait. C'était des messages qui venaient de leur cœur. L'exhortation produisait alors un effet énorme. Et tout restait structuré sur une liturgie protestante. Voyez-vous, comme quoi la liturgie n'est pas forcément un obstacle. Ce que vivaient les protestants, c'était garder la liturgie. Leur histoire est racontée par un avocat qui s'appelle Claude Brousson, pour ceux qui cherchent à voir l'histoire authentique, est un des plus célèbres prédicants. En témoin privilégié, il écrit un ouvrage sur la période qui suit la révocation, qui s'appelle « Relations sommaires des merveilles que Dieu a fait en France ». Les merveilles ne sont pas des récits miraculeux, mais ce sont des vocations. C'est-à-dire Dieu a levé des vocations. Pourquoi ? Parce que quand Louis XIV a décidé de révoquer l'édit de Nantes, il n'a pas fait les choses à moitié hein, en tant que roi. Hein. Il avait toute la puissance de l'armée avec lui. Mais la première chose qu'il a fait, il a dit « Tous les pasteurs, ils n'ont plus le droit de siéger en France. » Donc tous les pasteurs, ils dégagent. Sinon, ils seront tués. Ce qui fait que tout de suite, l'année d'après, eh bien, tous les pasteurs qui avaient été formés, qui existaient dans le pays, que ce soit en Normandie, que ce soit... Alors là, c'est l'ensemble de la France, tous devaient partir. Parce que c'est comme un roi, il fait ça. Au départ, il enlève les leaders, ceux qui sont capables. Il pensait qu'en enlevant les pasteurs, les leaders, eh bien, tout le mouvement allait s'arrêter. C'était un calcul, une stratégie. Et le problème, c'est que Dieu, il n'est pas lié à ça. Il a d'autres ressources. Et c'est là qu'on voit le principe du réveil. Donc tous les pasteurs, il y en a, je sais pas, 200 qui seront retrouvés à Londres, en Hollande, je sais pas combien. Enfin, j'ai pas tous les endroits d'accueil, mais jusqu'en Afrique du Sud, etc. Tous les pasteurs sont partis. Ce qui fait que Dieu a suscité des prédicateurs. Ils appellent les prédicants, parce que ce n'était pas des pasteurs, pas des prédicateurs, des prédicants, qui n'avaient aucune instruction théologique, aucune instruction biblique, rien. Mais il les a suscités. Et je vais vous lire quelques éléments de ce réveil qui vont certainement vous étonner, parce que ça fait partie de ce qu'ils ont vécu. Alors, les prophètes Sévenol, ils appellent ça les prophètes Sévenol. Prophète parle de la part de Dieu. Les témoins parlent d'accès d'agitation, de corps extraordinaire. Après avoir commencé dans le Dauphiné, ce mouvement passa dans le Vivarais, puis embrasa donc les Cévennes et le bas Languedoc. Il eut pour cadre la révocation de l'édit de Nantes, comme je viens de le dire, et sous le coup des persécutions se produisirent alors des curieux phénomènes du prophétisme Sévenol. La prédication, ainsi que la prédication puisse continuer, Dieu suscita un mouvement de prédicants, c'est des pasteurs, des laïcs, qui remplacent les pasteurs officiels. Et ce n'est pas tout. Apparut aussi le don de prédication. Ce don va toucher des hommes et des femmes de tous les âges, mais principalement des jeunes gens et des jeunes filles. C'est étonnant que Dieu... il n'empêche pas les femmes de parler, là. Donc ça pose un petit problème à la théologie que les femmes se taisent. Hein. Vous voyez, enfin, bon, ça c'est au passage. Hein. C'est juste une petite aparté. Parce que il y a beaucoup de femmes, là, au moins la moitié des femmes, qui prêchaient autant que les hommes, des personnes laïques. Des jeunes enfants également, et même au berceau, ils reçurent le don prophétique. Ce sont des milliers qui reçurent ce don prophétique, des milliers. Il y a jusqu'à 8000 jeunes prophètes dans le Sévenol et le Bas-Languedoc qui ont prophétisé, qui ont parlé, qui ont prêché. Alors que les pasteurs officiels étaient expulsés, la prédication s'intensifiait par ces moyens surnaturels. Qu'est-ce qu'un don de prédication ? Le Saint-Esprit saisissait en extase des personnes. Vous voyez ce que c'est que l'extase, hein ? C'est que d'un seul coup, la personne est subitement saisie par un don surnaturel et elle est utilisée par Dieu. Ce sont des personnes qui n'avaient ni formation, ni aptitude spéciale, souvent des gens ordinaires. La prédication jaillissait de leur bouche avec une puissance et une onction qui surpassaient tout ce qui était humain. Et elle était spontanément et miraculeusement inspirés. Ce sont très souvent que des enfants de 4 ans au moins, ne sachant ni lire ni écrire, qui étaient saisis par ces dons de grâce. Ils ne sachaient ni lire ni écrire. Ils se mettaient à prêcher en citant les textes de l'Écriture. Ils citaient des textes entiers de l'Écriture. Et en utilisant un pur français, alors qu'ils parlaient que patois. Langue qu'ils ignoraient totalement. Et ils connaissaient seulement le patois de leur région. Un témoin raconte, ça c'est un témoin, J'entrais dans une assemblée, il y avait une jeune fille qui parlait en prédicateur avec une liberté et une éloquence admirable. Je croyais entendre parler quelques anges. Tant étaient belles les paroles qui sortaient de sa bouche. Elle citait les passages de l'Écriture comme si elle les avait connus par cœur. Alors, d'autres manifestations, par exemple, les agitations. En public, les prophètes parlaient avec beaucoup de feu, de courage et de facilité. Et on les avait pris pour des prédicateurs savants, remplis de zèle. Quand ils prédisaient les jugements de Dieu, parce que parfois ils prédisaient que les dragons arrivaient, donc ils étaient prêts à changer de lieu pour se sauver. D'autre part, il y avait des jugements de Dieu sur certaines villes, etc., qui étaient prophétisés. Il arrivait presque toujours qu'ils tombaient à terre, la tête, les bras, la poitrine et le corps tout entier souffraient, quelquefois de grandes secousses. Ils semblaient avoir de la difficulté à respirer, ce qui ne leur permettait pas toujours de parler avec facilité. Cela se produisait surtout au début de l'inspiration. Les paroles étaient même entrecoupées de sanglots. Puis, c'était une facilité de parler si grande qu'on croyait aisément que leur bouche était émue par une puissance céleste. Pendant le temps de l'inspiration, ils parlaient le plus souvent en français, langue qu'ils ne pouvaient utiliser autrement. Les inspirations commençaient par les mots « Je te dis, mon enfant ». Il démasquait les complots, les intrigues et les pécheurs. Il pouvait même discerner les traîtres qui étaient dans les endroits de plusieurs milliers de rassemblements. Des fois, ils étaient 5 ou 6 000 rassemblés. Et il pouvait désigner les traîtres qui les démasquaient devant les dragons. Une jeune fille, après avoir été saisie par les tressaillements redoublés, fut touchée par des frémissements qui s'étendirent jusqu'au bout des doigts. Puis elle sentit une chaleur autour de son cœur et sa bouche se mit à parler de façon spontanée, saisie par une puissance invisible. Arrivée chez elle, elle se mit à parler de sa famille, à sa famille comme un prédicateur, parlant de la laideur du péché et de l'excellence des choses de Dieu. Les prophètes disaient que leur chute avait quelque chose de merveilleux et de divin. Les tressaillements étaient toujours des préludes à des inspirations. La visitation commençait par des frissons, une certaine faiblesse. Les bras et les jambes s'étendaient, ils bâillaient plusieurs fois, puis tombèrent à terre à la renverse. De grandes agitations se produisèrent. Leur tête s'agitait, leur poitrine était secouée, souvent par des sanglots. L'estomac s'enflait, une difficulté à parler, le teint pâle, puis la langue se déliait et la prophétie jaillissait librement. Tous ces signes étaient plus ou moins présents, mais le même schéma se retrouvait par des grandes agitations du corps. On note encore de grandes convulsions et du feu dans la poitrine, des grands cris et des larmes de sang. Voilà, je ne vais pas vous lire tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a quelque chose qui est étonnant, comme quoi un réveil, seul Dieu peut le faire. La France protestante était complètement en ruine, donc au moment de la révocation de l'édit de Nantes, et tous s'étaient effondrés à la consternation générale. Donc, en plusieurs lieux, où il y avait parfois autrefois des temples, on a entendu des voix dans les airs, si parfaitement semblables aux chants de nos psaumes, qu'on a pu les prendre pour autre chose. C'est ainsi que Pierre Jurieux, c'est un pasteur qui aborda dans une de ses lettres pastorales la question des chants angéliques. Le phénomène est paru pour la première fois dans la ville d'Orthez, en Béarn, quelque temps avant la révocation. Alors que les cultes étaient interdits, on entendait dans les airs des mélodies célestes. Évidemment, les premières réactions attribuaient les sons à l'écho d'une réunion clandestine. Mais très vite, les autorités qui enquêtent se rendent compte qu'il n'en est rien. Elles instaurent un couvre-feu pour empêcher la population d'aller écouter les chœurs pendant la nuit. Et le pasteur Bess raconte qu'en traversant plusieurs provinces pour se réfugier à Lausanne, il entendit distinctement des chants célestes et des bruits de trompettes. Il se demandait à la fin de la lettre si ces sons n'étaient pas prophétiques pour annoncer un jugement divin. Voyez-vous, ils entendaient les chants des anges. Les anges, ils chantaient et ils pouvaient entendre le chant des anges. Et ça s'est produit aussi bien dans le Vivarais que dans les Cévennes. Donc il y a toute cette histoire qui est racontée de ces manifestations absolument incroyables. Il y a un livre qui parle de ça, je l'ai acheté, hein, sur le prophétisme cévenol, et c'est absolument ahurissant de voir, bon, c'est notre histoire, hein, mais si on la connaît, de ce qui s'est passé dans cette vague de réveil que le Seigneur a utilisé, des gens absolument incapables de prononcer un mot de français et qui faisaient des prêches des fois de 2 heures. C'était pas juste 2 minutes. C'était pendant 2 heures, ils prêchaient. Ils se retrouvaient soit dans les grottes, soit dans les lieux déserts. Et parfois, ils étaient obligés de bouger pendant leur... Parce qu'ils étaient instruits par le Saint-Esprit qu'ils allaient être persécutés. Donc, ils changeaient. Quand ils venaient, il n'y avait plus personne. Et ils se retrouvaient. Alors, pendant 2 heures, des fois, des jeunes filles de 4 ans, 5 ans, qui prêchaient à toute la foule. Et c'était une prédication inspirée pour les ramener de nouveau à la foi, les ramener à nouveau dans le Seigneur. Voyez-vous, c'est une histoire de réveil qui, elle, d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de ces gouttelettes là, qui tombent là, la fin de ce réveil, hein, le Cévenol, c'est en 1704, hein, c'est très précis, en 1704, 1704, donc 1688, 1704, ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté aussi dans le sens où, je ne sais pas si vous avez entendu parler des camisards. Qui ont entendu parler des camisards, il y a beaucoup de films qui ont été faits là-dessus. C'est parce qu'il y avait un groupe de huguenots, des Cévennes, qui ont reçu de Dieu qu'ils devaient lever une armée. Donc ils ont levé une armée et qui s'est confronté à l'armée la plus puissante du monde à l'époque, c'est celle de Louis XIV, hein, puisqu'il remportait toutes les batailles en Europe, la plus puissante du monde qui s'est levée contre je ne sais pas combien, c'est 20 000 hommes, et là c'était 2 000. Ils ont gagné les batailles, personne ne comprend comment. Les troupes sont voilà, partir, etc. Enfin, c'est toute une histoire dans l'histoire, hein, qu'il faut lire. Et en 1704, je disais, ces camisards ont été vaincus en finale et cette révolte de camisards s'est arrêtée, mais en même temps le prophétisme s'est arrêté. C'est quelque chose qui a démarré sur une action de Dieu qui s'est arrêtée aussi sur la décision de Dieu. Mais il y a eu des gouttelettes, c'est-à-dire des gens qui, pendant cette période-là, ont passé en Suisse, ont passé en Hollande et ont passé à Londres. Voilà. Et à Londres, ils ont rencontré les pasteurs qui étaient partis avant, en 1785. Hein. Il y a eu des confrontations ici, des incompréhensions, qui ne voulaient pas croire ce qui se passait, etc. Aujourd'hui, il y en a des iPhones, tout ça, mais à l'époque, on était coupés, hein, il n'y avait pas les relations. Donc, on vous rapportait des choses, hein, on ne savait pas si c'était du lard ou du cochon, si c'était inventé, si c'était, voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension par ces pasteurs-là qui recevaient des gens qui racontaient toutes ces histoires incroyables, hein, qui se passaient de ce réveil de Dieu. Et ils ont réinsufflé une nouvelle vague de réveil, qui est celle de 1727, qui aussi a touché donc les Moraves, John Wesley, Whitfield, etc., qui ont bénéficié de ce réveil. Donc le réveil des Cévennes, le réveil du Vivarais, le réveil qui a commencé en France, eh bien, a permis à un nouveau réveil de démarrer et de continuer l'œuvre de grâce, l'œuvre de Dieu pour réveiller son Église. Et c'est de là qu'ont démarré le mouvement des églises évangéliques. C'est là notre racine, si vous voulez. J'en parlerai plus dimanche prochain sur les racines. C'est pour ça que beaucoup d'églises, hein, prennent le nom de église protestante, qui vient de la Réforme, et évangélique, qui vient de cette période-là. Voyez, protestante, évangélique. Parce qu'il y a des choses qui ont été restaurées au niveau doctrine de la foi, au niveau théologique par les réformateurs, mais qui ont été complétées par les réformateurs évangéliques, et c'est de là qu'on bénéficie. Donc notre mouvement a à peu près 300 ans, alors que le mouvement de la réforme, c'est 500 ans. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que Dieu m'a poussé à vous parler de ça, parce que l'année prochaine, c'est 2017. Et qu'est-ce qui se passe en 2017? Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous le serez maintenant. C'est les 500 ans de la réforme protestante. Et là, toute l'année, en France, on va en entendre parler. C'est pour ça qu'on se positionne déjà, aussi bien les protestants que les évangéliques se positionnent, pour faire un tabac médiatique au niveau de la télévision, partout, etc. On va faire dans le Mantois aussi beaucoup d'événements qui vont rappeler. C'est une occasion aussi de toucher nos contemporains. Parce qu'en 1517, qu'est-ce qui s'est passé en 1517? Puisque 500 ans, ça, il faut remonter à 1517. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, on a beaucoup de choses à apprendre pour l'année prochaine. Hein. Parce que si les gens dans la rue vous posent des questions, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fête les 500 ans? De quoi? De qui? De machin, etc. 1517, c'est passé quelque chose, un fait précis, c'est pas une légende. Pardon? Oui, bien sûr, c'est la réforme. Mais quoi, précisément? En fait, c'est le placardage. Ils ont placardé, regardez les films de Luther, ils ont placardé sur toutes les églises catholiques les 95 thèses de Luther. Et c'est ces 95 thèses, c'est-à-dire, voilà, on croit ceci, hein, l'église catholique croit cela, et nous on croit ça, c'est les 95 thèses. Et ces 95 thèses vont être reprises en 2017 par l'ensemble des événements qui vont être évoqués, et en particulier l'Église unie protestante de France, sur ces 95 thèses qui font la réforme. La réforme est basée sur ces thèses qui ont été placardées en 1517. Et c'est là que le réveil a commencé, et que les persécutions ont commencé, que les guerres de religion ont commencé, et que l'Église catholique s'est mise en colère et a décidé la mort de Luther, qui, par la grâce de Dieu, a été recueilli par un prince allemand, sinon il serait mort. Regardez le film Luther, il est très bien fait. Il y en a qui l'ont vu, le film Luther. Regardez-le, lorsque l'année prochaine, vous en aurez besoin pour répondre aux gens qui vous posent des questions dans la rue, parce que, je vous dis, il y a un effort énorme qui sera fait sur toute l'année. On prépare des événements médiatiques pour l'année prochaine, fêter les 500 ans de la réforme. Mais c'est la réforme de Luther, mais il n'a pas tout réformé. Donc, les évangéliques, ils se calent sur une nouvelle réforme qui a démarré donc dans cette vague de 1727, dont on parlera la semaine prochaine. Voilà, je vais m'arrêter là. Ceux qui s'intéressent à ça, ou qui veulent des livres à lire, des choses comme ça, je suis à votre disposition. En tout cas, ce livre sur les prophètes sévenols est très très intéressant à beaucoup d'égards, et montre aussi le début d'une action prophétique. Dans un réveil, Dieu fait des choses extraordinaires. Et vous, il peut faire entendre le chant des anges, hein, qui sont une réalité et que normalement on n'entend pas. Et Dieu fait des choses merveilleuses pour réveiller le peuple de Dieu, pour réveiller les gens, pour les amener à la repentance. Amen. On va prier un instant. Seigneur, merci pour ces témoins. Tes témoins du passé, mais qui sont encore présents aujourd'hui, Seigneur, parce que, Seigneur, nous dépendons aussi de tout ce qu'ils nous ont légué, de tout ce qu'ils nous ont donné, de tout ce qu'ils nous ont apporté. Seigneur, et des merveilles, Seigneur, de voir ton action, Seigneur, de pouvoir glorifier ton nom. Seigneur, donne-nous d'avoir faim et soif, de non seulement, Seigneur, de nous intéresser à ces réveils, mais d'aspirer un nouveau réveil, Seigneur. Parce que nous savons que ton cœur, c'est vraiment de réveiller d'abord nos cœurs à nous et ceux qui nous entourent, de les embraser, Seigneur, que nous-mêmes tu nous utilises pour embraser ceux qui nous entourent. Seigneur, donne-nous de nous réveiller. Donne-nous, Seigneur, d'avoir faim et soif de ta parole, d'avoir faim et soif, Seigneur, de ton amour, Seigneur, et que vraiment tu puisses manifester ta grâce, Seigneur, dans notre génération, comme tu l'as fait dans les générations passées. Nous te remercions pour ta bienveillance à notre égard, et sois loué et béni dans le nom de Jésus. Amen.